Et cette semaine, justement, on va parler avec notre géopolitologue maison des négociations en cours sur la libération des otages ainsi que sur le cessez-le-feu, mais aussi sur le rôle des rabbins en Israël à propos de ces négociations, justement. Voici Daniel Habert, il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous en ce lundi matin pour de nouvelles conversations. Alors Daniel, évidemment, nous allons parler des négociations qui sont en cours en ce moment pour un cessez-le-feu, pour la libération des otages. On a l'impression que ces négociations avancent, Daniel. Elles sont sur la bonne voie, a-t-on l'impression? Qu'est-ce qui a changé? C'est une nouvelle dimension par rapport à la réponse iranienne?
Il y a deux nouvelles dimensions. La première, c'est que les Américains ont compris la position d'Israël et ne font pas seulement pression sur Israël, mais aussi font pression sur le Hamas à travers l'Égypte et le Qatar pour trouver une solution. Ça a évolué. Et donc, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de négocier un cessez-le-feu permanent. On est en train d'analyser la première étape. Et la première étape, c'est une trêve qui vise à échanger quelques otages, des non-militaires, des femmes, des enfants, des gens blessés, des malades, contre quoi? Alors justement, c'est là qu'est la difficulté. Le Hamas, lui, fort du fait qu'il est vaincu militairement, mais qu'il est gagnant politiquement, géopolitiquement, a des exigences qu'Israël a beaucoup de mal à accepter, on le comprend. Il voudrait qu'Israël s'en aille complètement de la bande de Gaza presque à la première étape, et notamment, et ils le disent très clairement, libérer la frontière avec l'Égypte. Donc on comprend tout de suite pourquoi. C'est parce qu'ils veulent se reconstituer en armes et en munitions. Donc ça, Israël peut pas l'accepter. Et la deuxième chose, c'est ils demandent beaucoup de prisonniers en échange des otages, y compris des prisonniers de haut niveau, c'est-à-dire des gens qui sont des terroristes de très haut niveau. Et quand on sait que contre Galit, on a échangé 1000 prisonniers, dont justement Sinwar, qui est notre principal ennemi, on se pose quand même la question de cette question des otages dont on pourra reparler d'ailleurs parce qu'elle a beaucoup évolué. Donc, ça sera assez difficile. Mais la deuxième chose qui est venue se greffer, c'est que l'Iran dit « moi j'ai le droit et le devoir de répliquer à cet assassinat ciblé de Haniyeh sur mon territoire, et le Hezbollah, vous m'avez tué un de mes grands chefs, donc j'ai le droit de riposter ». Mais ils disent au fond, on est prêt à retarder notre riposte ou à l'annuler si vous signez le cessez-le-feu. Donc, ce qui veut bien dire que c'est tout l'intérêt de l'Iran si un cessez-le-feu est signé. C'est donc pas l'intérêt d'Israël. Donc, il faut bien voir que aujourd'hui, cette négociation, elle n'est sur la table que parce que les Américains y poussent beaucoup pour des raisons qu'on connaît, notamment électorales. Donc, voilà un petit peu les deux choses qui ont changé. Et en particulier, ce poids que met tout l'axe chiite, l'Iran, le Hezbollah, les Houthis ont dit nous, on est prêts à arrêter s'il y a un cessez-le-feu, qui montre à quel point ce cessez-le-feu est dans l'intérêt de l'axe chiite, des Iraniens, du Hamas, et c'est pour ça que Israël rechigne à signer. Voilà un petit peu comment on peut résumer un petit peu la situation, en rappelant quand même que le Hamas a perdu militairement, mais qu'il a le sentiment qu'il a gagné politiquement et géopolitiquement, et c'est pas faux. Cette position, elle est renforcée par le fait qu'elle a avec elle tout l'axe chiite qui est derrière lui, et surtout qu'elle a derrière elle une grande partie de l'Occident qui pousse beaucoup Israël. Il faut rappeler que un mauvais accord, comme hélas risque d'être ce cessez-le-feu, handicapera tout l'avenir, y compris l'avenir occidental, parce que faire un mauvais accord maintenant, c'est handicaper toute négociation avec l'Iran à l'avenir, qui profitera de ce bon deal pour demander des choses qu'on ne pourra pas lui donner. Et surtout, ça empêchera un accord sur la question palestinienne, parce que si on donne trop de poids au Hamas, comme le Hamas a une position extrémiste sur la question palestinienne, c'est-à-dire il veut pas d'un État à côté d'Israël, mais à la place, il n'y a pas de place pour la négociation. Donc on voit bien que l'Occident n'a pas les idées claires, notamment les Américains, parce qu'ils sont obnubilés par leur campagne électorale, parce qu'ils ont peur de l'escalade, donc parce que leurs priorités sont pas celles d'Israël. Quant aux Européens, ils ont peur de leur propre ombre, ils ont déjà assez à faire avec l'affaire ukrainienne, et ils veulent se débarrasser de ce problème, même en sacrifiant Israël. Donc Israël a bien compris tout ça, et c'est pour ça qu'il se bat pour ne pas signer n'importe quoi.
Alors, Daniel, il nous reste 5 minutes et il nous reste deux questions également que nous voulions aborder ensemble. La première était la position d'Israël et quelle doit être cette position? Vous vouliez parler de la position des rabbins surtout.
Écoutez, oui, d'abord, la position globale d'Israël, c'est tenir bon face aux pressions qui sont à la fois extérieures et qui sont à la fois celles des ennemis, mais aussi des amis, et des pressions intérieures, puisqu'on sait que la société est divisée, et notamment, comme vous le posez comme question, sur la question des otages. Un éclaircissement a été donné par plusieurs hautes autorités rabbiniques qui ont dit, vous rappelez sans cesse le devoir moral, éthique d'Israël de tout faire pour récupérer les otages, c'est vrai, mais rappelez-vous quand même que toute cette théorie du devoir que les Juifs et Israël ont vis-à-vis des otages a été élaborée dans le passé, à l'époque où Israël n'existait pas, c'était dans la diaspora, une époque où on prenait souvent des Juifs en otage, et donc la communauté se réunissait et dépensait des sommes extravagantes pour racheter les otages. Parce que ça, c'était un devoir. Il n'y avait pas de prix, comme on dit, pour acheter un otage. Ce n'est pas du tout la même chose. Et les rabbins le disent, c'est assez d'ailleurs surprenant, que quand vous avez un État, vous devez à cet État et vous devez tenir compte de l'intérêt de toute la population. Et la libération de Sinwar contre Galit avec 1 000 autres prisonniers montre bien que le prix à payer pour les otages est quelquefois excessif et qu'il faut accepter peut-être de ne pas négocier cette libération des otages à n'importe quel prix parce que ça met en danger l'existence même de ça. Donc du pays. Donc Israël, elle est là, arc-boutée sur l'existence même d'Israël parce qu'elle fait face à des menaces existentielles. Elle doit tenir bon et elle doit surtout convaincre les États-Unis que au-delà de la négociation avec le Hamas, c'est avec l'Iran qu'on est en train en fait de négocier. Et que l'Iran, c'est l'ennemi numéro un des Américains, avant la Chine et avant la Russie, et que Israël tient bon pour tout le monde. Et donc, c'est ce rappel-là qui doit être fait sans cesse et à juste titre.
Pour conclure ces conversations du lundi 19 août 2024, Daniel Habert, au final, quels sont les obstacles pour Israël dans ces négociations?
Écoutez, ce sont les amis d'Israël qui sont l'obstacle, surtout les Américains. Les Américains sont en campagne et donc Biden rêve d'une victoire diplomatique, quel que soit le prix. Je crois qu'il a tort, je crois que c'est de la démagogie, je crois qu'il cède trop à l'aile gauche du Parti démocrate, une aile gauche qui est anti-israélienne, pour ne pas dire antisémite. Donc il faut savoir résister. Je pense que quand on regarde les thèmes de la campagne de Kamala Harris, on voit qu'en fait ce sont des thèmes purement économiques, des thèmes internes aux États-Unis, pas du tout liés à la politique extérieure. Et donc Israël prend pas un risque énorme à ne pas céder. Quant à attendre les élections, oui, pas forcément parce que Trump va gagner, ses chances sont en train de diminuer considérablement, mais si c'est la démocrate qui est élue, quand elle sera élue, elle aura les mains libres, elle sera plus candidate, elle sera élue, elle pourra donc mener une politique extérieure qui sera plus équilibrée et retrouver quand même l'intérêt des Américains qui est de ne pas céder n'importe quoi aux Iraniens. Donc je pense que les obstacles qui viennent surtout des amis, ils viennent des Européens, ils viennent surtout des Arabes. Il faut faire très attention à l'image que l'on projette auprès des Arabes sunnites, en particulier auprès d'Arabie saoudite. Il faut absolument qu'à leurs yeux, et j'en conclurai par là, Israël et les États-Unis retrouvent une crédibilité militaire et géopolitique qu'ils ont perdu, et ce n'est pas en cédant aux demandes extravagantes du Hamas et de l'Iran qu'ils redresseront leur image. Donc c'est ça qui doit être le guide de la pensée israélienne, c'est l'image qu'ils projettent en termes de crédibilité, en termes de dissuasion face à ses ennemis et aussi face à ses ennemis arabes dont elle aura besoin. Et ça, c'est une chose dont on reparlera certainement entre nous.
Évidemment, ces négociations, ce seront le fil de nos conversations dans les prochaines semaines, je pense, Daniel Haber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.